On va prier, puis on va demander au Seigneur de venir parler à notre cœur. Ce que moi j'amène, c'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce qui sort de la parole de Dieu qui est important, puis c'est qu'est-ce que vous allez laisser rentrer aussi. Parce que, savez-vous que la parole de Dieu s'en retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet? Ça, c'est un verset. Mais un autre verset dit, la parole qu'ils ont reçue n'a eu aucun effet à cause qu'il n'y avait pas la foi dans la parole. Puis d'un autre côté, c'est important que les gens qui reçoivent la parole, qui croient que c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole d'un homme ou des hommes, c'est la parole qui est inspirée par Dieu lui-même. Puis si chacun de vous recevez ce qu'il vous a enseigné de semaine en semaine, le Saint-Esprit va faire son œuvre puissamment dans votre vie. Sinon, vous allez passer à côté de bénédiction. Alléluia. Père, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. On croit que tu es là au milieu de nous. On t'a rendu un culte qui te soit agréable, le fruit de l'œuvre, puis qu'on fasse ton nom. Puis maintenant, Seigneur, on te demande encore une chose, que ton Saint-Esprit vienne parler à nos cœurs ce matin. On est tout attentif, on est tout oui. Moi-même, je suis tout attentif à ce que tu auras à nous révéler ce matin. Puis fortifie-nous par ta parole, libère-nous, guéris-nous, fais un œuvre, Seigneur, pour nous qu'on devienne des soldats, des hommes et des femmes inébranlables dans la foi. Oui, viens faire ton œuvre au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. J'ai commencé une série de messages, là, à peu près une couple de messages antérieurs, puis le message est toujours dans la même continuité. C'est à propos de Paul qui est en train de parler à Timothée, puis Paul a dit à Timothée, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Puis on n'a pas fini de voir tout ce que le Saint-Esprit a mis en nous lors de notre conversion. Parce qu'on a reçu l'Esprit quand on a donné notre vie au Seigneur. Le Saint-Esprit a rentré en nous, on est devenu une nouvelle créature, c'est ce que la Bible appelle « naître de nouveau » ou « naître de l'Esprit ». Ça veut dire qu'il y a un commencement, un jour, ce qu'on a reçu le Saint-Esprit, puis une nouvelle vie commençait, une marche avec Dieu. Puis tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, puis qui ont dit au Seigneur, je crois que t'es mort sur la croix pour pardonner mes péchés, puis je crois aussi que tu veux me conduire, tu veux me diriger, je veux obéir, donne-moi ton Saint-Esprit, puis conduis-moi, puis je vais rentrer dans ton chemin. Tous ceux qui ont fait cette prière-là, ils appartiennent à Jésus. Le Saint-Esprit est rentré. Mais aussi, il y a eu des choses qui ont été données par le Saint-Esprit en chacun de vous. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit, il veut utiliser ce que vous avez reçu, puis il veut que ça porte du fruit. Mais, il est arrivé un moment donné que Timothée, dans sa vie, a eu un ralentissement spirituellement. Puis il a eu besoin de se faire motiver par l'apôtre Paul. Puis Paul, il a dit à Timothée, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. » Il dit pas de faire attention au Saint-Esprit, il dit, « Par le Saint-Esprit, garde le dépôt. Fais attention au dépôt que tu as reçu. C'est quelque chose de précieux, tu dois garder ça, d'en faire attention, puis tu dois continuer à faire développer ça. » Chacun de nous a reçu de la part de Dieu un don ou des dons. Puis dans ces dons-là, c'est ce qu'on va étudier. Ce matin, on va voir une dimension spirituelle qui s'est passée quand on a reçu l'Esprit. Mais avant d'arriver dans ce développement-là, je vais vous parler de Jésus face à son Père. Tout le monde sait que Jésus, au commencement, avant que la création soit créée, était avec son Père. Il y a un verset qui est dit dans Jean au chapitre 1, « Au commencement était la parole. » C'est qui ça la parole? C'est Jésus. « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qu'on voit présentement a été fait par Jésus. Rien de ce qui a été créé, soit dans le monde invisible ou dans le monde visible, n'a été fait sans Jésus. C'est dit, en elle était la vie. Puis la vie est la lumière des hommes. Présentement, on est en Jésus. Jésus maintient toute la création dans sa puissance. Au commencement, avant que Dieu ait décidé de créer le monde invisible, où ce que Dieu est présentement, puis où sont les anges, puis on voit des visions dans l'Apocalypse ou dans l'Ancien Testament, on voit le trône de Dieu, on voit celui qui est assis dessus, les éclairs, les tonnerres, le feu, le bruit, les anges qui chantent, puis toute ce qui fait partie du monde invisible. Avant même que tout ça soit créé, Jésus était qu'un avec son Père. Tout ce qu'ils ont décidé de créer, ils l'ont décidé ensemble, puis de toute éternité, Jésus a toujours été d'accord avec son Père. Il ne formait qu'un. On sait aussi qu'il était à trois, il y avait aussi le Saint-Esprit. À un moment donné, Jésus, quand il a tout créé, qui marchait à l'unisson avec son Père, il avait complètement la même pensée que son Père, puis ils ont décidé de créer le monde invisible, ils ont créé le monde visible, ils ont vu la rébellion dans le ciel, ils ont vu la rébellion sur la terre, parce que la plupart de ces créatures, une partie de ces créatures célestes s'est aussi rebellée contre son autorité. Puis quand on est arrivé sur la terre, dans sa création, l'ensemble de la création terrestre s'est rebellée contre lui. Jésus a pris une forme humaine, c'était annoncé d'avance qu'il viendrait sur la terre. Il a pris une forme humaine pour devenir comme un simple homme, la même chose que nous autres. Puis malgré le fait que l'humanité entière s'était rebellée contre son autorité, Jésus était encore parfaitement un avec son Père. Il y a dans Jean 10, 30, Jésus qui parle et dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Même si le Jésus a été pour un temps, il a quitté son trône, il est venu dans une forme humaine exactement comme la nôtre, Jésus s'est jamais rebellé contre son Père. Jésus, autant qu'il était en communion avec son Père de toute l'éternité, puis tout ce qu'il se décidait à faire comme création, il participait à cette œuvre-là, puis il était complètement d'accord avec son Père. Puis quand Jésus a quitté son trône, puis est venu sur la terre, il est encore 100% un avec son Père. Jamais Jésus a agi ou même pensé de faire quelque chose qui était contraire au plan de Dieu. Jésus avait une attitude d'obéissance, de marcher. Qu'est-ce qu'il devait se dire quand il était dans son corps? Je dois marcher dans la volonté de mon Père. Je dois faire la volonté de mon Père. Je dois demeurer dans la volonté de mon Père. Ça devait être les pensées qui l'animaient continuellement. Puis continuellement, il avait un désir d'être prêt. Il était obéissant, puis il disait, « Oui, Seigneur, je veux faire tout ce que tu veux que je fasse. » Quand Jésus, il dit, quand il a donné sa vie, il dit, « On me l'enlève pas, ma vie. » Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, puis j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus, même en allant mourir sur la croix, il était pleinement obéissant jusqu'à la mort, puis il n'a jamais eu l'intention de faire le contraire de ce que son Père s'attendait de lui. Ce que je vais vous parler ce matin, c'est l'idée de l'unité que Jésus avait avec son Père. Puis maintenant, qu'est-ce que ça doit être pour nous autres, cette unité-là? Jésus, là, il a voulu rassembler une multitude d'humains. Il a accompli sa mort sur la croix, il a annoncé le message pour que tous ceux qui voudraient être sauvés, il n'y aurait qu'à croire en lui, puis il pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Puis il nous a donné l'occasion à chacun de nous, c'est un don gratuit qu'il nous a accordé, qu'on puisse faire partie de sa famille. Qu'on puisse faire partie des saints du royaume. Dieu a préparé un royaume où il y a une histoire éternelle qui va se dérouler, puis on a tous été invités à rentrer dans ce royaume-là. Y a-tu un Alléluia, un gloire à Dieu ou un merci Seigneur? Êtes-vous reconnaissant de faire partie de ce royaume-là? Jésus est en train de travailler présentement pour former certaines personnes, parce qu'une fois que tu es rentré dans le royaume, c'est pas pour que tu restes juste dans la porte. Il y a un chemin, il faut que tu embarques, tu commences à marcher en communion avec le Père. On a retrouvé notre communion avec le Père à partir du moment qu'on a demandé pardon, qu'on a cru que Jésus t'a mort à la croix. On a été réconciliés avec Dieu, puis on a retrouvé notre communion avec Dieu. Parce qu'on n'avait pas de communion avec Dieu. On était mort dans nos offenses et dans nos péchés. On était séparés de Dieu. On était privés de sa gloire. Il n'y avait aucune promesse qui était pour nous, sauf une promesse qu'on pouvait être pardonné purifier, puis rentrer gratuitement, comme un cadeau qu'il nous donne, qu'on puisse rentrer dans la vie éternelle. Puis gloire à Dieu. Mais à partir de ce moment-là, le Seigneur commence un œuvre dans notre vie. Il a déposé des choses, qui fait partie de son dépôt, puis il nous a donné son Saint-Esprit pour nous conduire, pour qu'on marche avec l'Esprit, et qu'on marche aussi avec le dépôt qu'il a déposé en chacun de nous, puis qu'on porte du fruit pour sa gloire avec tout ça. Oui?
Génial. On peut le perdre, le dépôt, sans marcher.
On peut le perdre, puis à la fin, il y a des gens qui vont le perdre. Mais le but, là, ce matin, c'est pas ça réellement que je veux peser. Je veux vous exciter. Je veux que vous ayez une vision claire, que vous faites partie des appelés, des élus, puis que Dieu, il a un travail, il veut faire un travail dans votre vie pour vous amener, pareil comme Jésus était avec son Père, dans une pleine unité, que vous formez qu'un avec le Père et avec Jésus. Jésus, présentement, il travaille à rassembler les gens. Le Saint-Esprit travaille à rassembler les gens pour qu'ils soient greffés à son corps, pour qu'ils rentrent dans son Église qui est son corps, pour que les gens connaissent le message, le Saint-Esprit leur révèle le message, puis là, il les appelle, puis lui dit, venez, le cadeau est gratuit, je vous appelle aux noces, vous êtes tous invités, maintenant, rentrez dans les noces. Fait que les gens, on a tous répondu à cet appel-là, oui, Seigneur, on veut être sauvés, on veut faire partie de ceux qui vont être des noces. Puis là, Jésus dit, dans Matthieu 16, 18, que Jésus est en train de bâtir son Église, puis il veut tellement la bâtir solide, là, que même le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre elle. Le séjour des morts, ce qui fait partie du monde des ténèbres, ne peut pas avoir le dessus sur son Église, parce qu'elle est déjà victorieuse à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, là, si on veut, on peut marcher dans son Église, puis être fortifié par lui pour qu'on devienne inébranlable dans la foi, puis en même temps, de ressembler de plus en plus à ce que Jésus est, comme notre frère nous a dit tantôt. Quand est-ce qu'on rentre dans ce corps-là, dans cette Église-là? Dans 1 Corinthiens 12, 13, ça nous dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. À partir du moment qu'on a donné notre vie au Seigneur, on rentre dans ce corps-là. C'est un corps qu'on ne voit pas, là. C'est un corps qui n'est quand même pas visible. Si on parle le sens mot corps, c'est au sens figuré. On est le corps de Jésus. Je suis encore dans mon corps, mais maintenant je suis dans le corps de Jésus. Je suis maintenant un avec son corps. Ça dit, j'ai été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Avez-vous ce sentiment-là d'appartenance, comme quoi vous appartenez à Jésus? Avez-vous ce sentiment-là, comme quoi que vous formez, vous êtes un membre de son corps? Présentement, Jésus, son corps est encore sur la terre. Son corps, c'est qui? C'est l'Église. C'est qui ça, l'Église? L'Église veut dire l'assemblée des choisis. Présentement, là, il y a une assemblée sur la terre, une assemblée de gens qui sont répandus sur toute la terre. C'est des gens qui font partie de son Église. Quand Jésus va revenir, il va revenir chercher son Église, il va venir chercher son corps. C'est qui son corps? C'est chacun de nous qui avons été greffés pour former qu'un seul corps. Jésus n'a pas trois églises, il n'a pas cinq églises, il n'a pas des églises baptistes, pentecôtistes, mennonites, frères en Christ, les méthodistes. Il n'a pas des églises, Jésus. Il y a une église. C'est son corps, puis vous êtes tous des membres de son corps. Ouais, mais moi, je suis pas dans la même race que vous autres. C'est pas grave, la race, a dit. Que tu sois un juif ou un grec, ou un esclave ou un libre, que tu sois un blanc, un noir, ou que tu parles en français ou en anglais, il n'y a pas de distinction. On fait tous partie du même corps. Gloire à Dieu. Mais il y a une prière qui nous a été donnée que Jésus a faite à son Père. Jésus a prié son Père dans Jean 17, au verset 20. Vous pouvez aller le lire si vous voulez, moi vous attendre. Jésus on voit dans cette prière-là son cœur. On voit que le cœur de Jésus, c'est pas Seigneur, tu me donnes des personnes, mais que ça rentre avec le trouble. C'est pas ça?
Oui.
Jésus, son cœur, là, c'est de s'occuper, de prendre soin, de bâtir et de rassembler et d'unifier et de solidifier. Puis ça a un but, ça. Autant que Jésus est en communion avec son Père, il veut que les croyants, ses enfants, soient en communion avec son Père et avec lui pour former qu'un. Et dans Jean 17, Jésus est en train de prier. Puis là, il y avait des Juifs autour de Jésus, mais Jésus dit à son Père, « C'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par sa parole. » C'est qui ça? C'est nous autres. Jésus, là, déjà, sa terre, est en train de prier pour nous autres qui croirons en sa parole. « Afin que tous soient un. » Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il dit même, Jésus, il rajoute, je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement qu'un, puis que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus savait qu'il y aurait une multitude de gens qui croiraient en son message, puis qui adhéreraient à son corps, puis qu'on sera tous formés de ce seul corps-là. Mais il y a une prière qui devait être faite par Jésus, puis une prière qui se fait encore, que Jésus, ça dit qu'il était seul à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous, puis je crois que c'est encore sa prière. Il veut que son Église soit un. Pas juste un envers les autres, un aussi avec lui. Autant que Jésus, de toute éternité, est à un que son Père, il est venu sur la terre, il est encore un avec, puis là, il dit, mon corps, je veux que mon corps soit un, comme moi, je suis un avec toi, Père. Puis il dit même, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin, puis là, il y a une raison, mais je vais juste dire, Jésus nous a déjà donné sa gloire. Y en a-tu qui savent ce que ça veut dire? Quelle gloire qu'il nous a déjà donnée? Qu'est-ce que, aux yeux de Dieu ou aux yeux de Jésus, était une chose glorieuse? C'est son Saint-Esprit. Jésus marchait parfaitement qu'un avec le Père par l'Esprit qui est en lui. Et par l'Esprit qui était, c'est le même Esprit que le Père, que le Saint-Esprit ou que Jésus qui était de toute éternité. Puis on était privé de la gloire de Dieu à cause de nos péchés, mais Jésus nous a donné sa gloire. Il nous a donné une part de ce qu'il avait. Il nous a donné une part de son héritage. Pas juste le Saint-Esprit, il nous a aussi équipés dans le Saint-Esprit avec toutes sortes de dons, toutes sortes de bénédictions spirituelles d'un lieu céleste, et même la gloire à venir. Tu lis, on lirait tout le passage au complet dans Jean 17, il dit, il parle même de la gloire à venir. Mais il y a un but pourquoi qu'on faut qu'on soit parfaitement qu'un avec Dieu le Père, puis avec Jésus lui-même, puis entre nous autres, il y a un but pour ça. Afin, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Là, on se demande, pourquoi que moi, je dois être parfaitement qu'un avec chacun de vous, parce qu'on fait tous partie du même corps, pourquoi que je dois faire partie, que je dois être parfaitement qu'un avec vous et avec Dieu? Il dit, c'est qu'afin que le monde croit que Jésus a été envoyé du Père. Ça, là, ça veut dire, nous autres, on le sait qu'il est envoyé du Père, mais le monde ne sait pas que Jésus est envoyé du Père. Comment est-ce que les gens vont découvrir ça? Par notre unité dans le corps. Qu'on est tous abreuvés d'un même esprit que le passage nous dit. On a tous la même pensée. On n'est qu'un. Qu'est-ce que Jésus a rajouté? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Voyez-vous, il est important qu'on réalise que chacun de nous, qu'on soit un avec nos frères et nos sœurs, que ce soit un petit frère ou un grand frère ou une petite sœur ou une grande sœur, ça n'a pas d'importance, on n'a pas à se mépriser les uns les autres par notre apparence ou par notre intelligence ou par nos éclats. Si Jésus nous a accueillis, si Jésus vous a accueillis, on n'a pas le choix, on fait tous partie du même corps. Puis je dois marcher pour être un avec vous, chacun de vous, comme vous, vous devez marcher pour être un avec le reste du corps. Ça fait partie de quelque chose qui a été déposé en nous lors de notre conversion. On a reçu Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, on est tous abreuvés du même Saint-Esprit, puis ce même Saint-Esprit-là nous unit avec le Père et avec le reste du corps. Il y a une connexion spirituelle qui s'est faite à notre conversion. On est greffé au corps, puis on est alimenté du même esprit. Gloire à Dieu! C'est pour ça que Paul, il dit, fais attention, garde le dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit. Fais attention à cette unité de l'esprit-là que le Père nous a donnée quand tu t'es converti. Je continue. Éphésiens 4, 3, 6, qui nous dit encore des mêmes. Vous pouvez les écrire et les lire chez vous si vous voulez. Paul est en train de parler aux Éphésiens dans la même pensée. Il dit, vous efforçant, là il parle de nous autres de faire un effort, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Wow, là il est en train de dire, autrement dit, on a tous reçu le même esprit, on a tous été alimentés par le même esprit, puis ça se peut qu'on ne soit pas en unisson entre chacun de nous autres. Ça se peut qu'on ne soit pas connectés les uns vers les autres. Puis là, il dit, c'est à nous autres à faire un effort pour qu'on recherche à être connectés ensemble. Il dit, c'est notre devoir, puis c'est un ordre, de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. L'esprit, puis Jésus, puis le Père, veut qu'on soit un, puis on doit faire un effort pour que chacun de nous, on cherche à demeurer, puis à rester un. Puis là, il dit pourquoi? Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. On était appelé à une seule espérance. On a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Le même Dieu est en chacun de nous, bien qu'une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. On voit que cette unité-là est autour de cette pensée-là. Autrement dit, notre devoir est de s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit avec ceux qui ont la même vision et la même foi. Si quelqu'un vous dit, « Ouais, ben moi je ne crée pas en Jésus, je ne crée pas que Jésus est le Sauveur, je ne crée en rien de ça, pour moi on croit en la résurrection. » C'est clair que dans ce cas-là, il n'y a pas d'unité possible avec cette personne-là. Pourquoi? Premièrement, il ne croit pas. Hein? Ça dit qu'il n'y a qu'une seule espérance, il y a une seule foi, un seul chemin, autrement dit, puis un seul Dieu qui habite en nous et qui a été révélé par Jésus. Si la personne ne croit pas à rien de ça, c'est sûr qu'elle n'a même pas reçu cet esprit-là, elle ne peut pas avoir été greffée à ce corps-là, puis cette unité-là est impossible avec cette personne-là parce qu'elle ne croit pas à la même chose que nous. Donc, l'effort, s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit, ça sous-entend clairement que c'est dans le corps de Christ, de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui font partie de ses enfants. Ça dit de s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit avec quoi? Par le lien de la paix. Il y a quelque chose qui nous soude, à part qu'on est alimenté par le même esprit, là. Il y a comme un ciment qui est important. On est comme chacune une pierre. On est chacune une brique. Chacun de nous pour former cette maison-là. Il y a comme un ciment entre nos deux qui est important que ce ciment soit là pour qu'on garde cette unité-là. C'est la paix. Avec le lien de la paix. C'est un lien, la paix. Ça va nous souder ensemble, la paix. Si on marche en paix les uns vers les autres. Si on trouble la paix, puis on fait le trouble, il n'y a pas de communion possible, là. Il est important que chacun de nous, qu'on recherche la paix envers tous, afin qu'en tout temps, que le ciment nous colle, puis que là, on fasse qu'un ensemble.
On est
oublié,
Daniel, on est pasteur
qui est bricoleur. On est pasteur qui est bricoleur. Fait que le ciment qui va nous suivre ensemble. Mais là, Romains 12, 18 nous parle aussi. Même si on est doué par la paix, là, rester soudés ensemble, il faut, s'il est possible, autant que ça dépend de nous, qu'on soit en paix avec tous les hommes. Ah, ça on l'avait oublié, celle-là. Ça veut dire qu'il y a des moments dans notre vie qu'on aura peut-être des occasions, lui, il ne croit pas la même chose que moi, puis là, la chicane a de l'air à pogner. Moi, là, si ça dépend de moi, faut que je fasse attention pour que je demeure dans la paix, même avec les gens qui ne croient pas en Jésus. Eux autres peut-être me chargent du trouble. Moi, je ne dois pas répondre avec le trouble. Je dois laisser la paix prendre le contrôle. Tu peux te retirer, tu peux te la farmer, tu peux... Il y a bien des... Tu peux... Ouais. Là, ce que je veux emmener, c'est que, dans la même continuité d'idées, tous doivent chercher à renforcer cette unité individuelle avec le Seigneur. Quand vous avez été abreuvé du même esprit, ça veut dire que là, il t'a greffé au corps, puis il t'a donné l'Esprit de Dieu en dedans de toi. La première chose que tu dois faire, c'est d'entretenir ta communion avec cet esprit-là. Parce que c'est clair que si ta communion avec le Père est refroidie ou interrompue, parce que ça peut arriver qu'on n'a plus de communion pantoute, il y a des choses qu'on va voir dans les passages qui suivent. Tu ne peux pas vivre la communion avec les frères et sœurs si tu as attristé ou éteint l'esprit qui était supposé nous alimenter puis qui nous donnait la communion aussi avec les autres. Voyez-vous, la première chose que quand tu es chrétien, que tu dois faire, tu dois faire attention à renforcer ta communion avec Dieu en premièrement. Là, on peut regarder un passage en 1 Corinthiens 6, les versets 16 et 17, qui dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? » Oui. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire qu'on s'est attaché à Jésus, maintenant on est un seul esprit. Mais là, il est en train de dire, fais attention, parce que si tu t'attaches à une prostituée, tu vas devenir une seule chair avec elle. Tu es un prostitué toi aussi. Tu es une personne dans le péché. Tu es rendu pareil comme l'autre. Là, il nous dit dans le même passage, fuis l'impudicité. Là, on parle du péché de l'impudicité, mais il y a plein d'autres péchés qu'il faut faire attention. Si je veux renforcer, je m'attache au Seigneur pour être avec lui un seul esprit. Mais il faut que je m'attache. Il faut juste, quand je me suis converti, le lendemain avec, puis sur le lendemain, puis il faut que je m'attache toujours à rester en communion avec cet esprit-là. Puis 20 ans après, il faut que je sois encore attaché. Parce que je peux rompre le cordon puis dire je peux intéresser. Il dit dans le verset 18, « Fuis l'impudicité, puis quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, il pèche contre son propre corps. Et ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? » On s'est donné à Jésus. On s'est donné à Jésus. On s'est donné à Jésus. Ça veut dire quoi? On s'est donné à Jésus. On ne s'appartient plus. On appartient à Dieu, on s'est donné à lui. Puis là, à cause qu'on s'est donné à lui, lui nous a donné son esprit. Là, on peut marcher avec le Seigneur. On marche en communion avec lui. Puis là, on doit s'attacher au Seigneur, puis de rechercher à vivre d'une façon qui ne me brimera pas mon attachement. Là, dans le passage, il dit, l'impudicité, si tu t'en vas faire qu'un d'une prostituée, tu deviens toi-même un prostitué, puis tu vas attrister la communion avec le Saint-Esprit. Il faut s'efforcer à garder une communion parfaite avec l'Esprit de Dieu. On est devenu le temple. Une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit est entré dans chacun de vous. Et maintenant, vous devez faire attention de la manière dont vous marchez sur la terre. Parce que ça peut l'attrister. Ben, je vais avoir d'autres passages qui disent « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. » Cet esprit-là, là, il est sensible à notre conduite. On veut garder une unité avec le Seigneur, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on agit dans ce monde? Ben, cet esprit-là, il s'attriste de nous voir aller. Et si on regarde ce passage-là, n'attristez pas le Saint-Esprit, je lis un petit peu avant puis un petit peu après, ça c'est dans Éphésiens 4, 25 à 30, ça parle encore du péché qui peut être dans notre vie, en tant que chrétien. Qu'on marche dans le péché, on est en train d'attrister le Saint-Esprit. Fait que si ça brime ma communion avec Dieu, ça va aussi abrimer ma communion avec les autres. Vous m'avez voulu les passages, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Autrement dit, si je suis en train de te mentir, je suis en train de me mentir, puis on est le même corps, on est en train d'attrister l'esprit qui nous unit. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne péchez point. Puis il dit même, laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, puis que là, à cause, tu vis dans le mensonge, tu te mets en colère, puis tu dis des mauvaises affaires, tu donnes un accès au diable, puis le diable vient dans ton corps pour essayer de passer encore plus de pollution verbale, qui va encore plus détruire la paix qui est supposée d'avoir, premièrement, entre moi et Dieu, et entre moi et mes frères et sœurs. Ça dit, celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça veut dire, si vous étiez porté à voler, volez plus. Les vols avec aussi, ça attriste le Saint-Esprit. Mais plutôt, allez travailler, faites de vos mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner celui qui est dans le besoin. Encore d'autres points, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui vont servir une édification puis communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si je veux travailler à souder, à renforcer ma paix avec les frères et sœurs, à renforcer ma communion pour former qu'un seul corps et être en communion avec le Père, je dois veiller à ma conduite. Ça va augmenter la confiance, puis même le bien-être. On va être content de se voir. Mais ça, à chaque fois qu'on se réunit, qu'on se pique, puis on se craque, puis on s'envoie des insultes, puis on se vole, puis en plus qu'on pêche de toutes sortes par des mensonges, et ainsi de suite, on est en train d'attrister l'esprit, puis ça va briser notre communion avec Dieu, puis ça va briser notre communion avec le corps. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Il faut faire sortir tout ce qui pourrait être méchant de notre bouche. On n'a pas le droit, en tant que chrétien, de se dire des mauvaises affaires. Même entre l'homme et la femme, ils n'ont pas le droit de s'en dire. Même entre l'enfant et les parents, ou les parents et les enfants, n'ont pas le droit de s'en dire. Si on veut conserver l'unité de l'esprit. Là, si je fais attention à ma conduite, je suis en train de renforcer mon attachement vers le Seigneur. Mais en même temps, tous doivent chercher à s'intégrer par renforcer le reste du corps. Il faut que je trouve ma place aussi dans le corps, puis que là, je sois un outil dans le corps qui va servir à faire du bien dans le corps, et non pas à critiquer, fioler, puis mentir, puis voler, puis faire du trouble pour détruire, puis disloquer ce corps. J'ai déjà vu des églises, là, à cause du commérage, du chiolage, du mémérage, puis des chicanes, l'église complètement est divisée. Tu peux être dans l'église, là, hein, puis dire que tu t'en vas là pour rencontrer le corps, sans que tu t'en rendes compte, le monde ne réalise même plus ça, puis fonctionner comme si tu étais individuel, puis être en guerre avec tout le monde. Puis là, on pense qu'on est en train de rendre un culte à Dieu, en train de louanger le Seigneur, puis en train de le louer puis de le prier. Puis on pense qu'on plaît à Dieu, pas du tout. La prière de Jésus voulait qu'on soit un, comme là, Jésus était un avec son Père. Dans Éphésiens 4,16, nous dit, c'est de lui, en parlant de Jésus, là, et grâce à tous les liens de son assistance, grâce à tout ce que Jésus nous a communiqué, que tout le corps il est bien coordonné, il forme un solide assemblage, puis il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, puis il s'édifie lui-même dans la charité. C'est à ça qu'était le plan. Que tout le corps soit tellement soudé ensemble, que chacun, en trouvant sa place dans le corps, puis en manifestant les dons qu'ils ont reçus, puis en restant unis au corps, on va tirer notre accroissement, ça veut dire que l'Église, le corps du Seigneur, va s'accroître, va s'édifier, va se construire, puis elle va grandir dans le Seigneur par chacune des forces que Dieu a données à chacun. On a tous reçu de quoi qui va bénir les autres. Il est important qu'on reste soudés les uns avec les autres par le lien de la paix, qu'on ne cherche pas le trouble, on cherche la paix, puis après ça, je cherche à mettre au profit des autres ce que Dieu m'a donné. Chacun de vous, vous devez chercher à mettre au profit des autres ce que Dieu vous a donné, afin que tous ensemble, on solidifie, puis qu'on devienne un solide assemblage. C'est quoi ça, un solide assemblage? Mais quelque chose qui est comme une maison briquée, là. Puis toutes les briques pognées ensemble, puis avec le bois, puis la structure, ça fait quelque chose de solide. Mais si tu fais une maison, là, qui n'a pas de ciment entre les briques, là, puis qu'il n'y a pas de clous après 2x4, là, ça fait pas un... Disons que c'est ça, la paix qu'on a, le lien de la paix qui nous unit, c'est les clous puis le ciment. S'il n'y en a pas, là, parce qu'on a troublé la paix, on fait le trouble, on ment, on vole, on critique, on attriste le Saint-Esprit, chacun de nous, si on est tous divisés comme ça, ça prend pas un gros vent pour jeter à bâtir la terre. Puis on devient pas un solide assemblage, on devient une construction extrêmement fragile, puis... Jésus dit, quand ils vont être tous un, ils vont connaître que j'ai été envoyé. Fait que si la structure n'est pas un, les gens du dehors vont rentrer ici. Ils ne voient pas Jésus ici. Ils ne voient pas que ça fait partie du corps de Jésus. Ils ne voient pas l'amour pour dire que vous êtes vraiment des disciples. Ils vont sortir d'ici, ils vont dire, il n'y a rien là-dedans, c'est avec une gang qui a un club social, puis la chicane est toujours poignée. C'est grave. Le même verset, là, je l'ai lu dans la Bible Crampon, qui est une autre traduction, puis ça donne le même sens, mais compris différemment, puis qui veut dire la même chose, mais ça a renforcé notre idée. C'est de lui que tout le corps coordonné est uni par les liens des membres qui se prêtent un mutuel secours et dont chacun opère selon la mesure d'activité qu'il a reçue, puis il grandit, puis il se perfectionne dans la charité. On fait partie ensemble, là, si chacun se prête un mutuel secours, ou selon la force que Dieu a donnée à chacun, on peut tirer un accroissement et grandir dans le Seigneur. C'est ça qu'on veut? Gloire à Dieu! Maintenant, là, comment regardons-nous nos frères et sœurs? C'est important, moi je viens à l'Église, là. Comment est-ce que je pense quand je vous regarde? Je me penses-tu au-dessus? Je me penses-tu meilleur? Je me penses-tu que vous autres, vous ne comptez pas, que c'est rien que moi qui est important? Vous êtes-vous déjà arrêté pour savoir que si vous pensiez de chacun de ceux qui vous entourent? Pensez à votre femme, pensez à vos enfants, pensez au monde qui vous entoure. Comment est-ce qu'on se pense face à eux autres? Puis il est important qu'on s'arrête là-dessus. Ben, Jésus va vous le dire, lui, comment est-ce qu'il nous voit dans un passage. Dans Matthieu 25, 40 et 45, c'est la parabole où ce que Jésus il dit que toutes les nations vont être rassemblées devant lui, puis il va séparer les brebis d'avec les boucs. Il y en a qui vont avoir la vie éternelle, puis il y en a qui vont être jetés loin de la présence de Dieu. Jésus va dire quelque chose à ceux qui Matthieu 25, 40 à 45. Jésus va répondre à ceux que Jésus approuvait. Ça dit au verset 40, « Et le roi leur répondra. » J'aimerais ça que Dieu me réponde cette phrase-là. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le plus petit dans l'Église, le plus petit, celui qu'on n'oserait même pas lui adresser la parole parce qu'on pense que il n'est pas là. Ça peut être une personne handicapée. Ça peut être une personne qu'on trouve qu'est insignifiante. Ou est un nouveau sauvé. Pour Jésus, même celui-là, le plus petit de mes frères, ça compte. Et il dit, chaque fois que j'avais fait cela, puis là, il parle de... il avait faim, il a donné à manger, il avait soif, il a donné à boire, il était nu, il a donné du vêtement. Il était malade, puis en prison, on a été visité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus considère le plus petit de la gang comme étant lui-même. Et pourquoi que c'est lui-même? Parce qu'il fait partie du même esprit. Le même esprit qui est en nous, il est dans ce frère-là qui est le plus petit de l'Église. Puis il veut qu'on regarde nos frères et sœurs de la même façon que lui y regarde. Sont importants. Puis là, après ça, il dit, Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, à l'autre groupe, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et qu'on ne t'a pas assisté? » Jésus leur répond, je vous le dis en vérité, toutes les fois vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, parce qu'il y en a déjà séparé deux groupes, ceux qui appartiennent, ceux qui n'appartiennent pas, à mes plus petits de mes frères, à ces plus petits, chaque fois vous n'avez pas fait cela à un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ils ont été jetés dehors. Il n'y a qu'une seule chose qui doit nous motiver, c'est de garder l'unité de l'esprit, avec Dieu et avec les hommes, là, par la paix avec Dieu et avec ses enfants. Parce qu'on est tous le même corps. Coûte que coûte. Puis des fois même, il faut renoncer à nos droits pour que l'autre ne soit pas brimé. Ouais, ben moi, je suis, puis je devrais avoir, puis là, on cherche à imposer nos droits, puis ça fait un trouble, puis ça nuit à la paix. On devrait même renoncer à nos droits puis de faire attention que quand on dit quelque chose, qu'on fait quelque chose, qu'il faudrait que ça rassemble puis que ça communique une grâce à ceux qui l'entendent, ce qu'on dit. Si nous pensons qu'il n'y a aucun moyen d'y parvenir, à garder cette unité de l'esprit-là, j'achète avec les derniers passages, des fois, ça peut arriver qu'une église, que le ciment ici effrité, puis que les briques collent pas ensemble. Ça peut arriver que la paix n'est plus là entre nous autres. Il s'est passé quelque chose, là, que notre paix a été troublée, puis le ciment s'est effrité, qui est à la paix, puis on l'a plus, cette communion-là, les uns vers les autres. Mais dans la Bible, on voit que Dieu nous a donné une colle à rajouter dans le ciment pour que ça colle les briques ensemble. Puis même dans le monde humain, c'est la même affaire. Tu mets de la colle blanche exprès pour le ciment, puis tu peux coller deux choses en ciment ensemble. Puis c'est une nouvelle colle qui fait partie du plan de Dieu pour retrouver cette unité-là à rajouter dans notre paix. 1 Corinthiens 12, ça commence au verset 31. On va aller lire ça ensemble parce que c'est comme le punch qui est important que cette colle-là soit appliquée à notre vie pour qu'on puisse être vraiment collé avec les autres. 1 Corinthiens 12, 31. On va aller dans une couple de versets plus loin. On veut être spirituel, on veut vivre par l'esprit, on veut manifester les dons de l'esprit, mais il dit aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. C'est clair. Tu veux être spirituel, aspire aux dons les meilleurs. Mais si tu veux être spirituel, il n'y a pas juste les dons les meilleurs, il faut que tu ailles. Il va nous montrer encore une voie par excellence. La voie de l'excellence. La voie parfaite. Il dit quand même que je parlerai les langues des hommes et des anges, j'ai pas l'amour ou la charité. Je suis un rein qui résonne puis une cymbale qui retentit. Quand même j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand même j'aurai la foi à transporter les montagnes. Si j'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand même, je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand même, je livrais mon corps pour être brûlé. Si j'ai pas la charité ou l'amour, cela me sert de rien. Là, ça nous explique c'est quoi la charité. Puis ça, là, la charité, ça vient du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un verset qui nous dit, dans un autre passage, d'avoir les fruits de l'esprit. Puis le premier fruit de l'esprit qui est manifesté là, c'est l'amour, charité. La charité, l'amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui vient du Saint-Esprit. Faut que tu aies ça dans ta vie si tu veux que l'amour ou tes joints soient bien solides avec les autres. Si tu n'as pas l'amour, L'amour vient du Saint-Esprit, fait que la première chose, fais attention à où tu marches pour attrister le Saint-Esprit, ou tu gardes ton contact avec l'Esprit, pour que cet amour-là qui vient de l'Esprit, puis qui soit un fruit dans ta vie, que cet amour-là se manifeste, faut que tu restes connecté. Une fois que tu es connecté, cet amour-là va s'injecter dans ta paix. Elle va s'injecter dans le ciment. Elle va s'injecter pour garder un contact les uns envers les autres, puis garder une bonne unité. S'il n'y a pas d'amour qui vient du Saint-Esprit, il n'y aura pas d'église unie, il n'y aura pas de corps uni. C'est la soudure qui vient de Dieu et non pas de nos forces. Une église où la présence de Dieu est éteinte ne peut pas marcher dans le plan de Dieu et vivre la vie de Dieu. Là, on va voir que même dans la charité, le moyen que c'est expliqué, là, ce mode de vie-là, il y a du renoncement à soi, puis dans qu'est-ce qu'on a à, qui fait même renoncer à nos droits. Il dit la charité va être patiente, plein de bonté, point envieux. De l'envie. Envie les autres. Ah, lui, il a un beau char, moi aussi j'en veux un, puis là tu l'envies. Ça développe la convoitise. Pas d'envie. Tu te vantes point. Oups, là on commence à ceux qui se pensent supérieurs aux autres. Si tu te vantes, tu ne marches pas dans l'amour. Puis là, si tu ne marches pas dans l'amour, tu ne pourras pas avoir une bonne communion avec les autres. Tu ne te vantes pas, tu t'en fous point d'orgueil. L'orgueil est en cause de quoi contraire à ce col-là. Puis si tu es orgueilleux, ça se sent dans l'Église, puis les autres ne pourront pas avoir une unité avec toi. Ça fait rien de malhonnête. C'est-à-dire ceux qui ont des plans de faire des choses tout croches, là, mais tu ne peux pas marcher dans la colle de Dieu. Tu ne cherches pas ton intérêt. C'est ça qu'on commence à même à brimer ce qui sera nos droits. Au moins, j'ai le droit de. Si tu es dans l'amour, tu ne chercheras pas ton intérêt. Tu vas chercher l'intérêt des autres. Tu ne t'irriteras pas. Des fois, il peut y avoir des raisons pourquoi qu'on devrait s'irriter, mais tu ne t'irriteras pas. Si tu demeures en communion avec l'Esprit, tu vas faire attention à la manière dont tu réagis, pas t'irriter. Tu ne soupçonneras point le mal. Tu ne te réjouiras pas de l'injustice. Tu vas te réjouir de la vérité. Tu vas excuser tout, tu vas croire tout, tu vas espérer tout, puis tu vas supporter tout. Si on a cette attitude-là, là, ça va devenir une église soudée qui forme qu'un. Qu'on va vraiment marcher comme Jésus s'attendait que son Église marche, puis que les gens, quand ils vont nous voir, ils vont dire « L'amour est là. » C'est à l'amour qu'ils reconnaîtront. C'est à ce col-là qu'ils vont reconnaître. L'amour de Dieu est là. Puis il dit « C'est vraiment des disciples. » Ça, ça vient du Saint-Esprit. Ça a été déposé en nous quand on s'est converti, cette unité-là avec l'Esprit et avec les frères. On fait partie de ce corps-là. Puis là, il nous dit, garde le dépôt. Fais attention à ce qui a été déposé en toi. Cette unité-là, c'est très fragile. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que Jésus s'attend que ça soit dans chacun de ses disciples. Fais attention à cela. Travaille, efforce-toi de conserver cette unité-là. Garde la paix. Marche dans l'amour. Renonce à toi, à ce que tu penses que, puis ce que tu voudrais que. Cherche l'intérêt des autres. Cherche à construire. Puis là, l'Église va se solidifier. Elle va être un solide assemblage. Puis elle va grandir dans le Seigneur. Puis on va être inébranlable. Il n'y aura même pas d'accès pour le diable de venir puis nous suivre des choses. Voyez-vous? C'est ça le plan de Dieu. On va être qu'un ici. Puis on va rester qu'un l'autre bord. L'autre bord, là, tout ce qui faisait partie de notre chair, qui est encore des petits combats qu'on a dans notre vie, qui nous empêchent de goûter le vrai contact avec les frères et sœurs, ça n'existera plus. Quand on va être l'autre bord, on va avoir un corps qui ne se corrompt plus. On va être parfaitement content de se voir. Toutes les petites bibites, là, les petits problèmes de la terre, on ne pensera même pas à ça. On va être tellement content d'être dans la présence de Dieu, puis réunis avec nos frères et sœurs, puis on va voir ceux qu'on aimait, puis on va être rassemblés pour demeurer dans l'histoire sans fin. L'histoire éternelle dans le plan merveilleux que Dieu a préparé pour nous. Y a-t-il un amen à cela?
Amen.
Thank you. si jamais il y a des gens qui ont senti, qui ont brimé leur communion avec Dieu par des péchés, puis qui ont attristé le Saint-Esprit, puis qui ne sont plus remplis de l'amour de Dieu, c'est la première chose que vous devez faire. Vous devez faire la paix avec Dieu. C'est un lien de la paix-là, et pas juste entre frères et sœurs. Il faut que tu fasses la paix avec Dieu en réglant ces histoires-là de péché dans votre vie. Première des choses, reconnaissez que vous en avez fait des péchés et que vous n'êtes pas en communion. Puis, confessez-le au Seigneur, ces péchés-là. Puis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu vas vivre et être alimenté de cette paix-là, tu vas être encore plus porté à tourner vers le Seigneur par marcher dans cet esprit-là. Amen. Ça va se découler après ça avec l'amour de Dieu dans nos corps, dans nos cœurs, pour aimer nos frères et sœurs. Faites la paix avec Dieu, puis si vous avez brimé de quoi avec un frère et sœur, allez voir ce frère-là, puis demandez-lui pardon aussi. Puis Dieu va ressouder, il va réparer nos gaffes, nos erreurs, il va rajouter de la colle dans notre cœur, puis là, notre soudure va se faire les uns vers les autres.